Bienvenue dans Babylone, au carrefour des cultures et des réflexions sur le monde et la nature humaine. Le grand entretien, nous recevons François Gachou qui publie aux éditions du Cerf, dans la collection La Nuit Surveillée, la philosophie comme exercice du vertige. François Gachou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et comme nous l'avons appris dans un livre précédent, Sagesse de la montagne, vous êtes également alpiniste. Alors ce vertige que vous nous proposez d'explorer, où nous propulse-t-il? Vers des abîmes ou vers des cimes?
Je répondrai les deux.
Mon capitaine.
Parce que lorsqu'on s'élève, puisque vous prenez l'exemple de la montagne, sur une arête où on côtoie l'abîme de gauche et celui de droite, il est évident qu'on ressent dans cet espace qui s'ouvre un certain vertige. Alors, il y a peut-être la paralysie partielle au moins de la peur, mais il y a aussi une sorte d'exaltation euphorique.
Il y a un élan.
Il y a un élan, puisque sur cette arête même, quand on s'élève vers le sommet, on progresse tout en maîtrisant quelque part les abîmes.
François Gachou, vous habitez Bulle, quelques beaux sommets autour de vous, donc de quoi gravir. Vertige de l'amour, dirait Bachung, mais vous le dites aussi, vertige du désir, de la beauté, de la liberté, vertige du mal et de l'angoisse, vertige de la mort. Nous allons cheminer à vos côtés, François Gachou, pendant une petite heure. Bruno Seriba est à la réalisation, Nicole Corpato est notre assistante de production, Annick Chouin au micro. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Nous sommes nés en bordure d'abîme, et nous ne pouvons nommer que cette bordure. Maurice Clavel.
Qui suis-je ? Où vais-je ?
Le silence des espaces infinis.
M'effraie.
Pascal. Il n'y a de vraie jouissance que là où il faut commencer par avoir le vertige.
Que là où il faut commencer par avoir le vertige.
Goethe.
Goethe, Maurice Clavel, Pascal, des auteurs qui sont dans votre dernier livre, François Gachou, La philosophie comme exercice du vertige, paru aux éditions du Cerf, dans la collection La Nuit Surveillée, une très jolie collection que l'on doit, et peut-être on en reparlera, à Emmanuel, en tout cas en hommage à Emmanuel Lévinas. Alors dans ce livre et dans le désordre apparaissent des philosophes, beaucoup de philosophes et quelques écrivains. Je le disais, dans le désordre, Socrate, Platon, Aristote, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Michel Henry, il y en a d'autres. Une galerie qui pourrait vraiment faire reculer les non-initiés. Mais pas du tout, ce sont des philosophes qui se promènent avec nous et ne cherchent pas à nous intimider. Bien au contraire, ils sont là en amis et en éclaireurs. Alors mettre la réflexion philosophique à la portée du plus grand nombre, disons, François Gachou, cela reste pour vous une priorité ?
Absolument. Vous savez, quand on a fait le métier d'enseigner la philosophie, surtout parce que c'était mon cas dans des lycées où l'on essaye d'éveiller les jeunes à ces problématiques, c'est au fond quoi ? C'est tout simplement essayer de les éveiller à prendre conscience de la vie elle-même et des questions qu'elle nous pose. Par conséquent, je crois que nous pouvons tous être philosophes, mais pour le devenir, il me semble que la meilleure route n'est pas les livres de savants universitaires qui écrivent des livres fort abstraits. La philosophie reste un langage assez abstrait. Mais la meilleure route est peut-être, justement, de nous laisser interpeller par les questions existentielles de la vie. Et il y a la mort, il y a l'angoisse, ça c'est le côté peut-être négatif des questions. Mais il y a qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'amour ? Finalement, tout ce qui peut nourrir le développement d'une vie personnelle. Alors, je me suis posé la question, suite à d'autres philosophes qui déjà, depuis Platon, disaient « Pour faire de la philosophie, il faut savoir s'étonner. pour se poser ces questions-là, moi je me suis dit, au fond, pourquoi pas une expérience plus impérative, plus forte, qui nous met vraiment dans la question, à l'intérieur d'elle-même. Et je me suis dit, mais quand on éprouve le vertige, car ça nous arrive du dehors et c'est imprévisible, nous sommes nécessairement concernés. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, comme dit le verbe latin « vertere », l'esprit est retourné complètement, nous sommes déstabilisés, il y a comme un ébranlement de notre être devant le pourquoi de questions que nous ne savons pas facilement résoudre.
Mais alors justement, vous disiez, la première question, le premier élan, c'est l'étonnement, hein, c'est le départ de la philosophie comme on l'imagine généralement, comme Platon l'imaginait. Oui. Oui. Vous, pour vous, c'est... un exercice, et vous le dites d'ailleurs dans le titre, la philosophie comme exercice du vertige, ça veut dire d'abord, pas de cadeau, on peut vous comprendre, c'est vrai, mais enfin, faut bosser un peu.
Absolument. Oui, alors, l'exercice implique toujours que, une fois l'expérience du vertige découverte, on est devant la question, et on est même tout à fait dedans. Alors, comment la vivre ? Comment l'exercer ? L'exercice implique toujours, comme quand on fait des exercices pour le corps, n'est-ce pas, une certaine répétition. Autrement dit, une fois que nous sommes interpellés par une question, par exemple, pourquoi j'éprouve de l'angoisse, ou bien pourquoi j'éprouve la joie d'aimer, alors on peut réfléchir, prendre un certain recul par rapport à cela, et se dire que ce vacillement de nos assises, cette perte des repères, cette espèce de dépression dans l'être que suscite nécessairement le vertige comme un certain malaise, peut alors se transformer, se transfigurer en une disponibilité à accueillir ces questions et puis à les creuser par l'exercice. D'ailleurs, chacun des chapitres de ce livre est une sorte d'exercice. Alors, si le lecteur, la lectrice veut bien essayer d'entrer dans un de ces vertiges ou de plusieurs.
Il y en a une quinzaine.
Il y en a une quinzaine et j'ai conçu ça comme une mosaïque, les lecteurs et les lectrices.
Donc on entre où on veut ?
On peut l'entrouvrir n'importe où, ce livre, et aborder n'importe quel chapitre au gré de ses goûts. Si quelqu'un s'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est quand, au fond, le vertige de la liberté, il lira ce chapitre. Si c'est le vertige du désir, il lira ce chapitre. Si c'est le vertige de la dignité, il se plongera peut-être dans ce chapitre. Et puis, il faudra peut-être qu'il le relise et qu'il confronte ce que j'ai essayé de dire à l'appui de certaines citations philosophiques qui se confrontent avec lui-même. Au fond, comment est-ce que moi je me situe, par exemple, si j'éprouve le vertige d'exister ?
Alors vous nous parlez de ce vertige, vous nous avez parlé des jeunes, ceux qui ont été vos élèves. D'ailleurs, au passage, vous signez aussi des chroniques philosophiques dans le quotidien La Liberté. Mais bon, des vertiges, on n'en a pas forcément tous les jours. Est-ce qu'il faut un peu pousser pour avoir un vertige ou pas ? Par exemple, allez, tombons amoureux, quelque chose quand même que tout le monde connaît. On va peut-être pas se poser la question de savoir si c'est un vertige, on va juste se dire que c'est délicieux, pourvu que ça dure, etc.
Vous avez raison, mais je crois que c'est plus que ça. Moi, j'aime bien l'expression « tomber amoureux ». Ça prouve bien que tout d'un coup, quelque chose arrive à la personne qui se sent aspirée, attirée par une autre, à un point tel que cette personne, tout d'un coup, remplit sa vie, sa pensée. C'est pas quand on est amoureux, on ne pense plus qu'à l'autre. Et ce qu'il y a de merveilleux dans l'amour, c'est qu'au fond, il se passe ce qu'on appelle le phénomène, au sens technique, d'extase. Extase veut dire sortie de soi. L'attraction de l'autre pour moi-même est tellement forte que je ne pense finalement qu'à lui et que je n'ai qu'une envie. Quand je l'aime, ou si je l'aime, me donner à lui. Mmh.
Mais si on tombe amoureux, peut-être faut-il parfois s'en relever. Mais ça, c'est une autre histoire et on reviendra au vertige de l'amour, François Gachou. Mais si je vous comprends bien, parce que au fond, c'est ce vertige que j'aimerais mieux saisir. Vous avez dit le mot, c'est un basculement. Donc c'est aussi quelque chose qui nous dépasse. On peut se dire, bah tiens, je suis libre ou plus ou moins libre, qu'est-ce que ça signifie ? Creuser le sujet, et à partir du moment où on creuse le sujet, alors là, on peut avoir un vertige. Parfois, le vertige vient tout seul, probablement.
Il est difficile, je crois, de le provoquer artificiellement, comme si l'on disait, par exemple, puisqu'on vient de parler d'amour, « je veux aimer, donc j'aime ». Non, il faut que, tout d'un coup, la révélation d'une présence d'autrui se manifeste pour qu'on soit concerné, touché, et tout d'un coup, peut-être, alors, bousculé. Mais ça se passe à divers niveaux, à propos, par exemple du vertige de la mort. Qui, parmi nous, n'est pas interpellé par la question de la fin de notre vie? Autrement dit, il y a toujours un vertige de la mort, et dans la tradition philosophique, si l'on prend par exemple l'exemple des stoïciens, le but même, un des grands buts du stoïcisme, c'était comment apprendre à mourir. D'ailleurs, la phrase de Platon est restée célèbre, philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors voilà,
ouais, mais
une
alors là,
sorte
en
de
ayant
vertige qu'on peut travailler, qu'on peut exercer.
Ça c'est possible, mais alors, ayant lu votre livre, mais vous l'avez dit, on peut le relire, j'ai pas trouvé la solution au vertige de la mort.
Eh bien, chacun doit la trouver lui-même. Je ne vous dirai pas que moi j'ai trouvé la solution. Je ne crois pas qu'il y ait une solution par rapport à la mort. Je crois qu'il y a, à partir de cette interpellation, pourquoi moi qui aime tant la vie et qui m'aime moi-même et qui aime les autres, pourquoi est-ce que tout d'un coup, lorsque je cherche le bonheur, parce que c'est finalement ça ce que nous cherchons tous, pourquoi ça devrait finir? Quelle est cette injustice fondamentale qui finalement jette un coup d'arrêt à nos projets? Et donc, automatiquement, comme dans toutes les plus anciennes civilisations, se pose le problème, y a-t-il une vie qui continue après cette mort? Et on ne peut pas répondre avec la raison. Donc, il y a automatiquement un certain vertige. Maintenant, alors, on peut entrer dans une autre perspective, concevoir, par exemple, comme Socrate, la mort comme une naissance à l'inconnu. Le poète Baudelaire posait la question de la même façon.
D'ailleurs, vous citez quelques poètes. Vous êtes philosophe, c'est la philosophie qui sous-tend toute votre réflexion. Mais enfin, au passage, il y a Éluard, Baudelaire et quelques autres.
Tout à fait.
Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses assez rapidement, de façon assez, poétique, pour des poètes, c'est plutôt bien, mais qui nous parlent.
Oui, je crois que le privilège des poètes, c'est d'avoir une extraordinaire sensibilité, de savoir parler par image pour que notre sensibilité soit touchée. Quand Baudelaire, dans le poème Les Correspondances, nous dit, n'est-ce pas, que les parfums, les couleurs et les sons nous répondent et se répondent, et que nous sommes dans une espèce de générale et ténébreuse et profonde unité de ces rapports symboliques avec la vie, c'est un poète qui finalement nous met devant l'immensité des questions qui peuvent faire vertige.
Et proche de l'intuition.
Ah, c'est tout à fait intuitif. Je crois pas que les poètes puissent écrire, ou les chansonniers, un poème sans l'intuition. Il y a autrement dit ce courant qui passe entre l'interrogation et l'interpellation qui est faite au poète et les mots qu'il trouve et qu'il choisit pour rendre sensible le lecteur ou l'auditeur, si c'est une chanson, à ce qu'il veut nous dire et nous transmettre. C'est pour ça que l'homme est un être, comme dit Baudelaire, qui passe à travers des forêts de symboles pour les observer avec un regard familier. Nous sommes des êtres qui avons besoin de symboles, et ces symboles, finalement, peuvent nous conduire à approfondir, vous parliez d'exercice tout à l'heure, à exercer les intuitions sur toutes les questions que la vie nous pose.
Moi, je parle d'exercice et vous les pratiquez. Le vertige, c'est un basculement. Au fond, ça déstabilise, ça a un côté un peu effrayant, voire négatif, mais il y a le versant positif du vertige, vous nous le disiez, c'est les abîmes et les cimes, il y a le cime. En fait, avoir le vertige, c'est plutôt bon signe, et un bon signe, intellectuel et intérieur.
Oui, parce que je crois que ce qu'il y a de positif dans le vertige, c'est qu'il nous arrache aux conventions, à la routine, au confort, et qu'il nous oblige à nous poser les questions de l'authenticité de notre vie. N'est-ce pas? Par exemple, si on prend la liberté, qu'est-ce que c'est au fond la liberté fondamentalement? C'est ce privilège qu'a l'homme d'inventer son parcours, sa trajectoire lui-même, indépendamment des déterminismes biologiques ou même sociaux ou même religieux, n'est-ce pas, qui l'ont conditionné.
Autrement moi j'aurais dit possibilité. Parce que ce privilège, il n'est pas donné, il est donné à tous en tant que tel, mais concrètement dans le monde et dans la vie, il n'est pas donné à tous.
Il faut apprendre à devenir libre. Oui. On n'est pas libre, on le devient, et on le devient en exerçant nos choix. On revient à cette histoire d'exercice, nous exerçons constamment nos choix, et le privilège de la liberté, c'est qu'on peut remettre en question les choix, on peut toujours vouloir ou ne pas vouloir, et une fois qu'on a fait un choix, on peut le reconsidérer, on peut rebondir. Prenons l'expérience de l'échec, quand on parle par exemple de la résilience. La résilience, c'est cette faculté merveilleuse tout de même que l'être humain a de rebondir après les échecs. Les échecs, c'est douloureux, mais ils nous enseignent quelque chose qui nous permet de nous transformer, d'avancer, de vivre mieux, de faire de meilleurs choix.
Mmh.
Et là, on touche tout le problème du désir et du bien. Pourquoi est-ce que l'homme est cet être qui ne se contenterait pas seulement d'un désir ou d'un bien, mais qui court toute sa vie après des désirs et des biens, et ça n'est jamais fini?
Ce n'est jamais fini, justement, François Gachou. Bientôt, bon anniversaire, le 29 avril. Vous
Merci.
Aurez 70 ans.
Merci.
Tout ça pour dire, non pas votre âge, mais dire quand même que vous avez un beau parcours et un long parcours derrière vous. C'est l'aboutissement, ce livre sur les vertiges. Ça ne veut pas dire que ce sera un dernier livre, mais c'est l'aboutissement d'une longue réflexion et aussi d'une longue expérience.
Je pense, oui, je ne crois pas que j'aurais été capable d'écrire ce livre que j'ai voulu si proche des gens et des questions que tout le monde se pose, philosophe ou pas philosophe, si je n'avais pas longtemps enseigné la philosophie, longtemps fréquenté beaucoup de philosophes et de très grands qui m'ont beaucoup apporté pour ma réflexion personnelle. J'ai voulu alors, au fond, en quelque sorte, dépouiller toute cette immense littérature très abstraite des philosophes pour la rendre, au fond, simple. Et donc, accessible au lecteur. C'est mon seul but en publiant ce livre.
Je parlais de votre expérience personnelle, vous ne vous en cachez pas. Alors, il y en a une qui est très claire et qui nous mène vers le vertige de l'angoisse. Alors, ça commence comme ça parce que souvent, vous vous adressez au lecteur en lui disant tu penses à ceci, tu penses à cela, alors voilà ce qui va en découler. Là, vous racontez une petite histoire. Alors, cela donne. Petit garçon, j'avais été puni et l'on m'avait descendu puis enfermé dans la cave. Pas sympa, vos parents, hein ? La nuit m'enveloppa d'un coup et je me suis senti perdu. Ce puissant sentiment d'abandon n'était pas dû à la peur du noir. J'éprouvais un vertige insondable, le vertige du néant. Ce jour-là, je connus l'angoisse. Mais sur le moment, vous deviez avoir peur. C'est aujourd'hui que vous vous dites que c'était une angoisse ou à l'époque déjà ça a provoqué en vous, petit garçon, des réflexions qui vont au-delà des premières questions qu'on se pose.
Je vais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être surprendre les auditeurs. Je crois que les petits-enfants, dès l'âge de 4-5 ans, alors même qu'ils n'ont pas les mots pour décrire ou analyser une expérience, la ressentent au plus profond d'eux-mêmes et d'une manière extrêmement juste.
Mais la peur du noir, par exemple,
alors,
on dit bêtement c'est la peur du noir
alors,
et qu'il suffit d'allumer une lumière, ça suffit pas ?
Il y a bien sûr la peur du noir, je crois que tous les gosses la ressentent. Papa laisse la porte ouverte parce que je peux pas m'endormir s'il fait trop nuit et que je me sens coupé de la relation à mes parents. Ok, mais je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. La peur du noir peut connoter, ça a été mon cas dans ma petite expérience quand j'avais 4 ans et que j'étais dans le noir de la cave, n'est-ce pas, parce que j'étais puni pour une bêtise. Bon, j'ai éprouvé tout d'un coup ce sentiment indéfinissable que je n'arrivais pas à expliquer, que j'allais me liquéfier, que j'allais tomber dans le néant, que j'allais perdre mon maître, et j'y éprouvais alors ce qu'on appelle une angoisse. Et puis plus tard, mais beaucoup plus tard, j'ai compris que c'était vraiment de l'angoisse, parce qu'en relisant le philosophe Kierkegaard, qui a écrit un magnifique livre, qui s'appelle « Le concept d'angoisse », il dit au fond qu'on ne peut pas devenir philosophe et prendre conscience de ce que c'est qu'exister si on n'a pas un jour éprouvé l'angoisse du néant. Alors pourquoi le néant ? Mais parce que l'angoisse, c'est plus que la peur. On a la peur d'un objet X qui nous fait peur, n'est-ce pas ? Tout d'un coup, le garçon qui va traverser la route parce qu'il court après sa balle voit une voiture surgir et il a peur et il se recule. Ça, c'est une peur qui est liée à un objet, c'est pas de l'angoisse. L'angoisse, c'est vraiment le sentiment que notre existence peut basculer, c'est un vertige, et que nous pourrions être vraiment intimement concernés par le néant. Et je crois d'ailleurs que, puisqu'on parlait des stoïciens tout à l'heure et de la peur de la mort, vis-à-vis de la mort, quand la mort approche, et qu'on se dit, ben ça sera bientôt l'heure d'y passer, on ne peut pas ne pas éprouver autre chose que de l'angoisse. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes arrachés à notre propre vie à laquelle nous tenons, et par conséquent, nous avons le sentiment d'un certain néant. Et alors qu'on soit croyant ou non croyant, je le dis très clairement, nous éprouvons cette angoisse. Maintenant, évidemment, peut-être que le croyant peut s'en remettre parce qu'il croit en Dieu, à ce Dieu qui peut l'accueillir, et le non-croyant va peut-être se dire « je vais basculer dans le néant ».
L'angoisse ou la peur, vous lisez Kierkegaard, je serais peut-être allé vers Freud, quelques auditeurs peut-être aussi, pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas. Freud a très bien expliqué au fond le phénomène de l'angoisse par le biais du refoulement. N'est-ce pas? L'admirable découverte de Freud, au fond, est ce qu'il nous a essentiellement apporté, c'est l'idée de l'inconscient. Il y a en nous des zones de notre être auxquelles notre conscience et notre raison n'accèdent pas. Et ces zones de l'inconscient nous influencent. Nous sommes marqués par des expériences, par exemple, de la petite enfance qui nous ont traumatisés. Nous ne nous en souvenons pas, mais tout d'un coup, dans certaines circonstances de la vie, ces traumatismes qui ont été refoulés dans l'inconscient ressortent. N'est-ce pas ce qu'on appelle la névrose ou même la psychose, en termes un peu plus psychanalytiques précis, sont des phénomènes finalement qui expriment une angoisse refoulement.
Le vertige, puisque c'est là votre terrain d'expérimentation, François Gachou. Si je résume, c'est quelque chose qui se passe, on verra après, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui se passe lorsqu'il y a un pourquoi et qu'on ne peut pas répondre à ce pourquoi et qu'il nous saisit.
Oui,
c'est quoi? C'est existentiel quand même.
Oui, je pense que c'est le propre de l'homme. Comme disait Kierkegaard, si nous étions anges ou bêtes, nous ne connaîtrions pas la question du vertige, par exemple celui de l'angoisse, parce que nous sommes conscients de notre rapport à l'existence et nous sommes conscients que nous sommes tout simplement contingent. Qu'est-ce que ça veut dire, contingent? Qu'on aurait pu être ou ne pas exister. Vous ou moi, nous aurions pu ne pas exister. Mais nous existons. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi, dans la question elle-même, il y a quelque chose d'insondable? Il y a quelque chose d'indéfinissable? N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas impacter notre existence comme un simple objet, n'est-ce pas, qu'on a emballé à la sortie d'un grand magasin.
Oui, nous aurions pu ne pas exister. Ça finalement, on le comprend assez bien. En tout cas, la science, la biologie nous explique c'était de justesse, tout ça. Et puis, vous avez un chapitre, on ne va pas s'attarder sur celui-là, mais vertige quantique. Hein, je dois vous avouer qu'a priori, j'aurais même passé rapidement là-dessus. Mais enfin, je m'y suis quand même arrêtée. Puis là, effectivement, petit vertige, bon, le Big Bang, tout ça. Mais ça a failli ne pas exister. Un cheveu près, il n'y avait rien. Enfin, oui. Il n'y avait pas nous, du coup.
Bah, évidemment que le vertige quantique, depuis que Max Planck a essayé de comprendre pourquoi l'univers est né d'une fantastique quantité d'énergie qui s'est ensuite transformée en matière, et l'espace, le temps, la matière sont nés dans cette mouvance de cette énergie qui s'est transformée. À l'origine, il y a ce moment qui remonte à environ 13,7 milliards d'années d'après les calculs des astrophysiciens. Tout a commencé là. Mais on ne peut pas éviter la question, même les astrophysiciens la posent. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, il y a deux traditions. Ou bien certains philosophes depuis longtemps, comme c'était le cas des philosophes grecs, pensent que l'univers est éternel, il a toujours existé. Ce qui n'empêchait pas Aristote de dire « Oui, mais si l'univers éternel a toujours existé, pourquoi? Quelle est sa cause? On peut chercher la cause. » Bon. Ou bien alors, l'univers a commencé dans le temps, avec le temps. Mais alors, à partir de quoi? À partir de rien, il y a un commencement absolu.
Vertige du rien, vertige du temps.
Du néant à l'être. Or, le néant ne produit rien. Donc, ça pose un problème, mais c'est un problème vertigineux.
Mais ce qui est fascinant, c'est que tous les ingrédients étaient là pour que ça se le fasse, comme s'il y avait une intention. Alors, je ne vous parle pas de Dieu, là, s'il y avait une intention.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond...
Il fallait une dose de chaque chose.
C'est la question du hasard ou de l'ordre magnifique, n'est-ce pas, des éléments qui, finalement, s'agrégeant eux-mêmes par milliards de particules, pensez simplement au cerveau humain, font que tout d'un coup, dans cette harmonie prodigieuse, ça fonctionne et surtout sa vie. Et puis, à l'intérieur de sa vie, il y a nous et nous qui désirons être, vivre et surtout être heureux.
Le vertige est une expérience, c'est aussi un exercice, d'où le titre de votre livre, François Gachou, La philosophie comme exercice du vertige, un exercice sur lequel nous allons revenir avec quelques-uns des exemples qui constituent votre ouvrage, Vertige d'aimer, d'exister, de connaître la liberté, on en a déjà dit du mot, du mal, de la mort, mais d'abord, musique avec un choix de Bruno Seriba. Musique vertigineuse selon Bruno Seriba et c'est Nomos Alpha de Yanis Xenakis. Nomos Alpha, François Gachou, quelque chose qui doit vous dire justement, qui participe de votre réflexion.
L'alpha, c'est le commencement.
Oui, oui.
D'où vient ce commencement ?
Eh bien, c'est vertigineux.
C'est vertigineux, je crois, en effet.
Vous êtes dans Babylone et nous sommes en compagnie du philosophe François Gachou qui publie aux éditions du Cerf la philosophie comme exercice du vertige. Un exercice qui relève de quoi ? De la raison doublée d'une nécessité absolue, répondre à ces et pourquoi qui ne sont pas si simples que ça. C'est la raison d'abord, François Gachou. Ah, exercice.
D'abord,
hein.
Je dirais que c'est l'expérience intérieure. Moi, je crois qu'au fond, on entre dans les questions de l'existence de sa vie, toutes les questions que les gens se posent, d'abord parce qu'on les ressent intérieurement, et c'est le cas de l'expérience du vertige. On n'y entre pas tellement en lisant des gros traités abstraits, très savants. Donc il y a d'abord cette expérience qui est intuitive, et puis après, on essaye de réfléchir. Alors si on essaye de réfléchir sur le contenu, évidemment que la raison un peu analytique intervient.
Et un peu de volonté.
Oui, sans doute.
Parce que je disais que votre livre est très accessible, puisqu'il est destiné à un large public, comme on dit généralement, intéressé. Mais enfin, il faut quand même se concentrer un peu, vous demander du travail.
Je demande un certain travail, parce qu'évidemment, si les lecteurs veulent bien accueillir l'expérience, j'ai voulu leur donner un peu la main pour essayer de les conduire eux-mêmes à apprendre à y penser, mais il faut qu'ils aient quelques bases. Alors j'ai écrit des chapitres relativement brefs, qu'ils peuvent choisir eux-mêmes, parce que le livre se présente un peu comme une mosaïque en 15 thèmes, où ils peuvent se promener eux-mêmes. Mais en les lisant, ils vont, je l'espère, être un peu interpellés et concernés par ce que j'ai essayé de mettre en place.
Alors, la raison, le raisonnement, la volonté, le travail, l'exercice, mais il y a aussi le corps et le vertige éprouvé par le corps, et ça c'est, vous venez de le mentionner, mais c'est plus fort que ça, vous parlez même de la chair.
Oui, je distingue volontiers le corps de la chair et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Eh bien, je partirai de la question la plus simple qu'on puisse poser à ce sujet, c'est comment savoir que je vis et que je me pose des questions ? Eh bien, c'est en éprouvant que je vis, que je me pose des questions. Et comme disait le philosophe Michel Henry, n'est-ce pas, la vie, on trouve que ça va de soi, mais ce n'est pas vrai. La vie, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est ce qui s'éprouve toujours et dont nous ne pouvons pas nous détacher. Et pourquoi nous ne pouvons pas prendre une distance d'avec nous-mêmes qui sommes des sujets ? Parce que si nous nous prenons comme objet d'étude...
Mais certains le font.
Comme le médecin qui, lorsque vous avez une opération, va prendre telle partie de votre corps, il va opérer par exemple un rein, ou vous vous êtes cassé la jambe, il va faire une opération de votre genou, etc. Eh bien, il prend votre corps comme un objet. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas dedans. Le médecin, il vous travaille comme n'importe quel autre objet matériel de l'extérieur. Tandis que quand vous éprouvez du dedans que vous vivez, vous êtes automatiquement en relation avec vous-même, sans pouvoir prendre de distance avec vous-même. Alors, vous ne pouvez pas à la fois être sujet qui éprouve et objet qui analyse ce que vous éprouvez vous-même. Par conséquent, il y a comme une distorsion, une séparation entre le corps sujet et le corps objet. Alors, moi, j'appelle corps l'objet même sur lequel on travaille, c'est-à-dire un organe de notre corps. Mais le corps sujet, c'est le corps que Husserl l'appelle le corps propre, c'est le corps subjectif, et ça, on peut mieux l'appeler la chair. Pourquoi ? Parce que la chair, c'est le lieu où s'expérimente, se déploie et se manifeste intimement ce que je ressens.
Ça veut dire aussi que vous ne séparez pas la chair de l'esprit ?
Excusez-moi de vous interrompre, on ne peut pas, dans la mesure où... Qu'est-ce que vous éprouvez comme sujet ? Vous éprouvez, par exemple, des désirs, des pulsions, des émotions. Votre sensibilité, comme en ce moment-là, fonctionne. Nous nous voyons, nous nous parlons. Vous éprouvez des sentiments, vous éprouvez des pensées, vous éprouvez des vouloirs, vous éprouvez des passions, etc. Tout ça vit. Vous vivez une émotion, vous vivez une passion, vous vivez la pensée d'un raisonnement. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est une unité extrêmement profonde qui est la vie elle-même. La vie se manifeste à plusieurs plans, au plan de la sensibilité, au plan de la raison, au plan des émotions, des sentiments, etc. Et cette unité profonde, nous ne la voyons pas, mais nous ne la ressentons. Ce qui me fait dire ceci, avec Michel Henry, la vie est invisible.
Michel Henry, philosophe décédé, mais néanmoins contemporain, là.
Néanmoins contemporain, parce qu'il est décédé en 2002. Il a écrit des livres magnifiques sur, justement, ce qu'il appelle la phénoménologie de la vie, en montrant que la vie est ma demeure la plus profonde. Je ne la vois pas, la vie.
Mais Dieu est d'accord avec vous, François Gachou ?
Alors, je ne mettrai pas Dieu dans cette analyse-là, parce qu'en fait, le problème de Dieu, on peut en parler, si vous voulez, tout à l'heure, est un problème qui concerne plutôt la foi. Et bien sûr que la foi devrait nous mettre en relation avec quelqu'un et pas avec un simple objet matériel.
Et la foi ne règle le pas tout. Je ne sais pas si on arrivera à passer en revue toutes les vertiges. Certainement pas, François Gachou, mais ce qui m'intéresse, parce que au fond, vous parliez de votre expérience en tant que philosophe, mais aussi en tant que chrétien. Vous êtes chrétien, vous avez écrit des livres, vous le disiez, vous avez écrit notamment un beau livre pour réunir, faire des ponts entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ce livre s'appelle « Par-delà l'athéisme », qui est également paru aux éditions du Cerf, c'était en 2007, et préfacé par Luc Ferry. Ça veut dire d'ailleurs que vous êtes assez éclectique en matière de philosophe, parce que entre Platon, Kierkegaard, Emmanuel Lévinas, et puis Luc Ferry, il y a des mondes.
Il y a des mondes, mais je pense que la tâche du philosophe en tant que professionnel, c'est d'explorer ces mondes et puis à partir de là, d'essayer de les rendre lisibles et surtout vivants pour les lecteurs qui peuvent ainsi bénéficier de ces analyses.
Oui, c'est très intéressant et vous le faites très bien. Ce sont vos choix, malgré tout, parce que tous les philosophes ne disent pas la même chose. Certains entrent en contradiction, certains se sont battus d'ailleurs. Alors comment faites-vous face à cette masse d'informations en termes très contemporains ?
Il faut avoir tout simplement, je crois, l'esprit d'ouverture et puis se dire que ce qui concerne les gens pour les rencontrer, c'est ce que les philosophes peuvent dire sur des sujets où nous sommes tous interpellés et concernés. En ce sens-là, je ne vois pas de contradiction, malgré les oppositions qu'il y a entre certains philosophes, entre Hegel et Sartre, entre Lévinas et Merleau-Ponty, même entre Karl Marx, par exemple, et puis Michel Henry.
François Gachou, amour, désir, doute, connaissance, tous les vertiges ne se valent pas, me semble-t-il, en tout cas et a priori. Ouvrons votre livre, pas du tout par hasard, je vous propose le vertige d'exister, parce qu'il nous mène d'ailleurs à d'autres vertiges. Alors voilà comment vous vous adressez au lecteur, pour que nos auditeurs aient une petite idée de cette adresse. Alors vous nous tutoyez d'ailleurs. Tu t'es un jour demandé, et si l'univers n'avait pas existé ? Et si moi, je n'avais pas existé ? Et puis, pourquoi moi et pas un autre ? Pourquoi ici plutôt que là ? Pourquoi pas hier, il y a des siècles, plutôt qu'aujourd'hui ? Qui suis-je donc au cœur de l'existence ? Bon, voilà, c'est vaste, n'est-ce pas, François Gachou, si je puis dire ? Vaste question. Alors, comment empoignez-vous la réponse ?
Alors, j'ai essayé dans ce chapitre de dire, au fond, deux choses. La première, c'est ce que ce très ancien philosophe admirable, qui s'appelait Parménide et qui a vécu avant Socrate, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, au début. Un grec, bien sûr. Parménide nous a laissé quelques fragments d'un magnifique poème qui s'appelle « De la nature », où il se laisse interpeller par une déesse qui s'appelle Dike, la déesse de la justice, et il lui demande de lui manifester, de lui révéler ce qu'est exister. Et alors, dans ce poème, Parménide essaye d'exprimer ce qu'on appelait par la suite le principe d'identité, à savoir que si on prend conscience qu'on existe, on ne peut pas ne pas exclure le contraire, c'est-à-dire le néant. Je ne peux pas en même temps exister et être conscient que j'existe, et en même temps ne pas être. Donc il y a, au fond, une opposition tellement radicale entre exister et ne pas exister, que du moment que j'existe, je suis collé à mon existence, à un point tel que, Parménide conclut, si l'existence exclut le néant, c'est que l'existence est nécessaire. Je ne peux pas ne pas exister. Et par conséquent, il pensait, à partir de là, l'existence est éternelle. Le monde, moi, il y a quelque chose qui a toujours existé. Mais plus tard, surtout Aristote, interpelle Parménide en disant « Oui, mais tout de même, les êtres que je rencontre autour de moi et qui sont vivants, ils n'existaient pas et ils naissent. Puis, ils développent leur vie et un jour, ils disparaissent, c'est-à-dire qu'ils meurent. Par conséquent, l'existence n'est pas éternelle. En tout cas, l'existence des sujets vivants qui sont mortels n'est pas éternelle. » Alors comment concilier d'un côté que nous soyons si attachés à l'existence et puis que d'un autre côté, cette existence n'est pas permanente, qu'elle a quelque chose de profondément éphémère. Alors c'est toute la dialectique, au fond la discussion, entre l'existence contingente, nous aurions pu ne pas être, et quel est ce pourquoi qui fait que vous êtes vous, que je suis moi, que nous sommes nés il y a tant d'années à tel endroit, etc., plutôt qu'il y a 5 siècles. Impossible de répondre à cette question, mais en tout cas, une chose est certaine, nous sommes nés, nous sommes là, et la question est, qu'est-ce que je fais de ma vie ?
Alors Pascal dirait, je pense, donc je suis.
Ça c'est Descartes, hein, je pense.
Descartes,
je
pardon. Raté.
Pas de problème.
Pardon.
C'est-à-dire qu'au fond, la notion de contingence n'annule pas la richesse de l'existence, au contraire, elle nous demande de prendre en charge de manière responsable la direction de notre vie. Et là, je rejoindrai volontiers, par exemple, Jean-Paul Sartre, qui nous dit que nous sommes devant une tâche, c'est la tâche de construire nous-mêmes notre rapport à l'être. Ça veut dire quoi, construire notre rapport à l'être ? Ça veut dire donner nous-mêmes une direction par la liberté à notre vie en lui donnant tel sens selon tel choix. Et si je cite un autre philosophe qui s'appelle Heidegger, Heidegger dit, oui, qu'est-ce que c'est qu'exister ? Alors il écrit « exister », c'est faire sortir, faire jaillir, faire surgir l'existence du néant, puisqu'avant je n'existais pas. Et alors, Heidegger d'ajouter, qu'est-ce que c'est l'homme ? Qui est l'homme ? C'est cet être en qui se pose la question de l'existence. Et c'est ça qui nous différencie des autres vivants et des animaux. Les animaux existent comme vous et moi, mais ils ne se posent pas la question « Qui suis-je dans l'existence et qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Nous, nous la posons. Autrement dit, il s'agit de savoir comment on va la développer, comment on va la construire, comment on va exercer, on revient toujours à l'idée d'exercice, la liberté pour se construire. La rencontre avec les autres pour se construire.
Alors justement, François Gachou, autre chapitre de votre livre, La philosophie comme exercice du vertige, donc autre vertige, le vertige d'aimer. Alors on va passer rapidement sur la passion, hein, l'amour de la passion qui passe et dont on parle beaucoup d'ailleurs généralement. Pourquoi ce vertige d'aimer ? Parce qu'en fait, il mène à d'autres vertiges comme celui de la beauté et de l'idée du bien en passant par le désir. Alors ça, vaste parcours. Alors d'abord, aimer soi-même, aimer l'autre, comment vous considérez ce sentiment ? J'hésite avec les mots.
Alors je pense que ça ne s'oppose pas. On a l'habitude, un peu simpliste, d'opposer l'amour de soi et l'amour d'autrui. Or, si l'on regarde bien, là, les philosophes tout de même nous rendent service, si l'on regarde bien certains philosophes, je vais vous en citer deux, on voit que l'amour de soi est toujours premier, d'une certaine façon, et là, je citerai volontiers Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau qui dit, au fond, que la vie qui nous est donnée et que nous ressentons en nous-mêmes, puisque nous existons, il emploie une très belle expression, il dit, c'est une pure étreinte avec soi-même. Quand je vis et que je me sens vivre, j'éprouve un attachement à moi-même parce que j'aime la vie et qu'elle est en moi et que je veux la développer et que j'ai cette tendance à la rendre la meilleure possible. Je cherche quoi ? Je cherche le bonheur. Donc on ne peut pas ne pas s'aimer soi-même et devenir soi-même. C'est la grande aventure de chaque être humain. Mais d'un autre côté, le jour où nous rencontrons quelqu'un qu'on aime et qui devient important pour nous...
Donc on ne parle pas que d'amour, enfin on parle d'amour au sens large, ça peut être l'amitié.
Ça peut être l'amour, donc... l'amour au sens d'une attraction, au sens classique, de l'amour entier qui tout d'un coup nous occupe et nous prend dans ce vertige qu'on évoquait au début. Mais ça peut aussi être l'amour de l'autre dont je suis responsable parce que l'amitié et la responsabilité vis-à-vis de n'importe quel homme qui est digne, je dois la respecter et je peux l'aimer.
Bon, alors tout ça est parfait, que se passe-t-il ? Où est le vertige ?
Alors, bon, le vertige de l'altruisme, c'est évidemment de quitter sa clôture personnelle pour aller vers l'autre en se disant « je m'oublie moi-même parce que je veux lui faire du bien à lui, parce qu'il a besoin de mon aide, parce que j'éprouve de la compassion ». N'est-ce pas ? Il y a aujourd'hui, dans l'actualité tragique de la guerre en Libye ou du tremblement de terre au Japon, il y a, me semble-t-il, une interpellation profonde qui nous est faite à chacun de nous qui sommes ici privilégiés en Suisse et tranquilles et qui ne sommes pas concernés par ces tragédies. Il y a l'interpellation, qu'est-ce que je pourrais faire ?
Oui, mais c'est souvent une interpellation éphémère, c'est pas une interpellation, c'est un bousculement momentané, me semble-t-il, qui n'ébranle pas forcément, parfois, probablement, et certaines personnes, sans doute, mais qui n'ébranle pas forcément fondamentalement l'être.
Mais bien entendu, je puis très bien un soir regarder la télévision et aux nouvelles me dire, voilà, j'ai vu des images assez tragiques, et puis...
Verser quelque chose à la chaîne du bonheur, c'est déjà pas mal.
Me sentir peu concerné, mais je peux peut-être aussi me dire, et il y a des jeunes qui le font, et ça je l'admire, je vais m'engager, je vais partir là-bas, je vais aller rendre un service humanitaire pour aider ces gens qui souffrent.
Mais de nouveau, ça, ce sont des actes. Alors, l'acte est essentiel et primordial, j'imagine, parce que penser et être sans acte, c'est très bien pour soi, mais ça mène pas très loin. Mais il faut les deux. Alors, il faut cette intériorité qui est de l'ordre... J'ai vraiment des problèmes face à vous avec les mots. Qui est de l'ordre de la sensation et de, on va pas dire spirituel, mais enfin d'une connaissance d'un sentiment, d'une sensation intérieure, mais doublée de quelque chose que je vais faire. Oui. Alors reprenons l'autre, l'altérité qui me sort de moi-même à partir du moment où, vous me dites si j'ai pas bien compris votre exercice, à partir du moment où je m'aime, j'arrive à m'aimer moi, donc à aimer la vie, à partir de là, je peux me projeter en dehors, vers l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça peut ébranler en moi ? Est-ce que ça peut me changer, tout simplement ?
Oui, dans la mesure où l'autre est pour moi quelqu'un que je rencontre vraiment. Alors, je vais prendre un exemple très simple, parce que c'est un exemple, après tout, que tout le monde peut comprendre et puis qui est fondamental, la relation de la mère à l'enfant. N'est-ce pas ? Cette mère désire, souhaitons-le, et je crois que c'est le cas de la plupart des mères, désire avoir un enfant. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elle s'aime elle-même ou est-ce que c'est d'abord parce qu'elle aime l'enfant ? Moi, je réponds les deux. Parce qu'à travers cette maternité, elle va s'accomplir comme femme, mère, dans cette fonction particulière. N'est-ce pas porter un petit être qui va devenir un homme pendant 9 mois dans son ventre, c'est une intimité extraordinaire entre cette mère et cet embryon qui va devenir un enfant, un être humain. Autrement dit, on parlait de la chair tout à l'heure, il n'est impossible de séparer pendant ces 9 mois la mère de cet enfant. Et donc, en ce sens-là, cette mère va vouloir le bien de son enfant. Que pourrait-elle vouloir d'autre ?
Ah, elle le peut, mais on entre dans autre chose, et ça, c'est aussi une affaire de psychanalyste.
Oui, alors, d'accord. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont enceintes et qui n'ont pas désiré un enfant. Et évidemment, ça sera certainement tragique si cet enfant naît avec des traumatismes.
Mais si tout se passe bien ?
Alors, si tout se passe bien et que ce désir d'enfant est authentique, la mère va en même temps vouloir le bien de l'enfant et donc l'aimer follement, elle va vouloir le protéger, elle va vouloir son bien pendant plusieurs années et même jusqu'à la fin de sa vie. On ne divorce jamais de ses enfants.
Mais ça, c'est possible avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai l'impression que là, on vous comprend bien par rapport à la mère et l'enfant, parce que c'est quelque chose dont, de nouveau, on parle quand même assez souvent, les psychanalystes en parlent souvent.
Oui.
Mais moi, excusez-moi de vous interrompre.
Mais je vous en prie.
Un peu, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité, c'est vraiment l'autre en tant qu'il ne fait, par exemple, pas partie de notre famille. C'est vraiment l'autre. Et qui est quand même un grand problème de notre époque. Accueillir l'autre, comprendre, accueillir aux deux sens du terme. On va pas faire de la géopolitique à François Gachou, mais accueillir l'autre au sens physique et puis au sens de nouveau mental, l'accueillir dans notre amitié, ça c'est quelque chose qui peut ébranler, c'est quelque chose de fondamental et de rare.
Je le pense, mais on peut repartir de l'exemple que je viens de donner. Il est clair qu'à un moment donné, cette femme qui va accoucher cet enfant va éprouver, on parle d'ailleurs d'une certaine dépression qu'une femme peut faire lorsque l'enfant est né, parce qu'elle doit se détacher de l'enfant pour le laisser être lui-même. Elle devra apprendre à le laisser devenir lui-même. On sait très bien que, par exemple, pendant l'adolescence, les adolescents ruent dans les brancards et puis posent quelques problèmes à leurs parents parce qu'ils s'y opposent. Mais elle devra apprendre à continuer de l'aimer pour que lui devienne un être à part entière, indépendamment de ses parents. Donc, il y a un moment où l'amour, je dirais, viscéral de la chair, n'est-ce pas, doit faire place à l'amour de l'autre au sens de son autonomie propre. Et alors là, évidemment, c'est une question de responsabilité et de choix. Il faut laisser l'autre être lui-même. Et je peux alors l'aimer, toujours, interviendra alors la responsabilité et surtout ce que j'appellerais l'amour de son bien à lui. Moi, je crois qu'il y a finalement dans l'amour deux façons d'aimer. Ou bien j'aime quelqu'un en le rapportant à moi et je consomme en quelque sorte pour mon plaisir propre cet autre comme un instrument ou comme un objet. Il n'y a qu'à penser à tout ce qui se passe avec la pornographie et la femme objet, n'est-ce pas ? C'est une question d'amour de soi possessif purement instrumentalisé. Ou bien alors j'aime l'autre en respectant ce qu'il est lui-même dans sa dignité propre.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est un exercice. François Gachou, amour, et puis il y a désir. C'est un très beau chapitre que je n'aimerais pas oublier dans votre livre, un très bel exercice. Alors le désir, au fond c'est notre fondement, exister. Alors c'est primordial, hein, vertige d'exister, vertige de la liberté, c'est peut-être celui qui est le plus important puisque c'est ce qui nous permet de nous construire tel que nous le voulons.
Oui.
Nous le pouvons de temps en temps, je me permets
nous
quand même.
Nous essayons d'exister.
Voilà. Et puis, il y a ce désir. Et ce désir, il va, selon vous, vers le bonheur, ça je veux bien comprendre, et vers le bien, je le comprends moins bien.
Je vous comprends. Qu'est-ce que j'ai
vous
voulu
avez quelques minutes.
Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer par là? Eh bien, d'abord, ceci que le propre de l'homme, et je reviens ici à Jean-Jacques Rousseau, c'est la perfectibilité, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne cessons de chercher ce qui nous permet de nous accomplir et ce que nous désirons, c'est au fond le bien. Tout ce que nous désirons a pour objet un certain bien.
Oui, mais alors justement, c'est pas partir du principe
si
que l'homme est bon ?
Il ne s'agit pas de savoir si l'homme est bon ou pas bon, on peut aborder cette question après.
Je dirais
que on peut appeler bien l'objet de tout désir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jamais aucun bien particulier et limité de cette terre ne nous satisfait. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons un garçon qui s'achète un vélo moteur et je lui demande, moi, comme prof, pourquoi tu t'achètes un vélo moteur? Ah, parce que ça me fait plaisir, c'est donc pour toi un bien. Ah oui, c'est un bien parce que je vais m'aérer, je vais circuler librement, j'ai du plaisir à aller à vélo moteur. Puis je lui dis, mais tu peux pas t'en servir pour une autre raison, pour un autre bien? Elle me dit, oui, je peux inviter ma copine à venir avec moi sur le vélo moteur. Je dis, ah bon? Donc, tu cherches pas seulement à circuler en ayant plaisir de circuler, mais tu cherches, au fond, à être avec ta copine. Et pourquoi tu cherches le bien d'être avec ta copine? Ah, parce que je l'aime. Et je peux aussi lui dire, mais alors pourquoi tu l'aimes? Et il peut me répondre, parce que le bonheur, c'est d'aimer. Alors là, on se trouve tout d'un coup, à partir de deux, trois petits biens qui sont désirés, disons de manière instrumentale ou pour l'usage, à un bien beaucoup plus fondamental qui est d'aimer. Alors, je veux dire par là que la perfectibilité, c'est cette course à différents biens qui se situe à différents étages. Alors, on peut prendre les biens destinés à l'usage, qui sont les biens utiles. Alors, il suffit de regarder dans notre appartement tout ce qu'on possède. Ça, c'est des biens utiles, la voiture, le frigidaire, etc. Il y a les biens sensibles qui épanouissent notre sensibilité. Il y a les biens moraux, n'est-ce pas, comme le courage, la dignité, le respect d'autrui, c'est des biens moraux. La liberté est un bien moral. Et puis, il y a derrière tout ça, quoi? Mais le bien qui nous comblerait entièrement.
Je vous rappelle, ou je vous arrête là, plutôt, François Gachou. On va se référer à votre livre. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous et de nous avoir fait parcourir votre pensée incarnée, puis de nous laisser, et le livre nous laisse également sur le mystère, tant mieux, absolument, jamais fini. François Gachou, je rappelle le titre de votre livre, « La philosophie comme exercice du vertige ». C'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf dans la collection « La nuit surveillée ».
Merci.
Babylone avec le temps.
Babylone s'achève et vous était proposé par Annick Chuin avec Bruno Seriba à la réalisation, Laurence Baudat à la documentation, Nicole Corpato signe nos pages internet. Et Babylone est une production de Nicole Duparc et de David Collin que vous pouvez entendre en toute heure, quand vous le voulez, sur notre site internet. Rendez-vous lundi, Babylone recevra l'historien Stéphane Courtois qui vient de publier au PUF « Sortir du communisme, changer d'époque ». À propos de changer d'époque, en deuxième partie de l'émission, eh bien, Philippe Zibung recevra la juriste et écrivain Marcella Yacoub. Elle y parlera de ses confessions de mangeuse de viande. Un beau moment en perspective à lundi. Merci de nous être fidèles. Vous écoutez Espace 2 et il est très exactement 10h.